Masque tombe sur RCN.
Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Gaël, alias Josie Bazar, un artiste messin.
RCN, Les Masques tombent, Elisa Gautron.
Bonjour Gaël.
Salut, salut.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, très bien, et vous?
Merci. Très bien également. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas?
Ouais, absolument. Donc, moi j'opère sous le nom de Josie Bazar, qui est un projet de chansons électroniques alternatives. Mm-hmm. C'est une entité qui doit avoir maintenant bientôt 2 ans. Et à la base, j'ai commencé la musique plus dans le registre de la techno-punk. Et donc en duo avec plusieurs musiciens. Et il y a 2 ans, m'est venue l'envie d'explorer le champ de la chanson, quoi.
Et c'est quoi votre parcours dans le monde de la musique? Comment est-ce que vous avez commencé à faire de la musique?
Alors, en fait, c'est quelque chose qui m'a jamais trop quitté. Moi, j'ai une formation à la base aux Beaux-Arts de Nancy. Mmh. Donc, que j'ai abouti en 2015. Et en fait, j'ai toujours fait de la musique à côté, mais sans avoir jamais pu concilier les deux pratiques, quoi. Donc, j'ai fait mes années d'études. Après, ça m'a amené à vivre à Shanghai. Alors voilà, ça fait un peu camoulox, dit comme ça. Mais j'ai vécu 3 ans à Shanghai pour de la recherche en art contemporain. Mm-hmm. Donc là, j'ai commencé un peu à m'épanouir sur la scène expérimentale, mais vraiment dans des lieux singulier et puis très officieux. Et à ce moment-là, je continuais à composer avec un ami avec qui je fais de la musique depuis des années, mais sans avoir trop concrétisé. Et on s'envoyait des pistes, on composait ensemble entre la France et la Chine. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais venir en France, les expositions, ça me plaît plus trop. Je vais venir en France et je vais essayer de faire de la musique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en arrivant à Paris, en le rejoignant. Donc on a essayé de comprendre comment est-ce qu'on sortait un disque, comment est-ce qu'on faisait un concert, comment voilà. Donc, la musique en réalité, même de prime abord, c'est surtout une accumulation d'instruments électroniques, quoi, de boîtes à rythme, de synthétiseurs, de fascination un peu extraterrestre pour ces objets-là, quoi. Mmh. Donc c'est comme ça, en autodidacte en tout cas, que j'ai commencé, comme beaucoup de gens aujourd'hui, quoi, finalement.
Vous n'avez pas eu de formation en soi en musique?
Non. Non, alors parfois c'est un complexe où je me sens pas forcément légitime à exercer ce métier, mais finalement, en prenant un petit peu de recul, je me dis que ça m'a jamais empêché. Je pense que beaucoup de peintres peignent sans avoir reçu de formation. Je pense qu'en musique c'est exactement pareil, surtout avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, quoi.
Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la musique ?
Ce qui me plaît le plus, moi, c'est la scène, clairement, quoi. Ce qui me plaît le plus, c'est là où j'ai compris que je voulais vraiment faire ça de ma vie. C'est la première fois où j'ai eu l'occasion de faire un concert et où j'ai constaté que le médium de transmission scénique, c'était quelque chose qui échappait à tous les codes d'expression que je connaissais jusqu'alors. Mmh. Et c'était quelque chose de très direct, que j'ai trouvé très fédérateur et que je trouve presque autosuffisant finalement. Et finalement, le fait de produire des disques, donc bien sûr c'est pour être un minimum écouté, mais c'est souvent un prétexte pour jouir le plus possible de la scène, quoi.
D'accord. Et comment est-ce que vous avez commencé du coup à écrire des musiques? Comment est-ce que ça...
En bricolant, en fait, je pense que j'ai commencé à écrire en voulant copier ce que j'aimais, quoi. Parce que j'ai toujours, c'est pas très singulier de dire ça, mais j'ai toujours baigné dans la musique d'une manière ou d'une autre. Et je découvrais des disques avec les amis, de fil en aiguille, je tentais de d'affiner un petit peu, hein. Un regard de plus en plus singulier sur des artistes de plus en plus de niche ou de choses comme ça. Et finalement, j'ai commencé à écrire de la musique en cherchant à copier les artistes que j'aimais bien, hein, tout simplement. Je pense que ça part d'une volonté de mimésis un peu, quoi.
Justement, quels sont les artistes qui vous inspirent pour écrire?
En fait, ça dépend vraiment dans quel registre je me situe. C'est sûr que les artistes, quand j'écris avec mon duo, donc plus techno-punk, ce genre de truc, ça va être des influences différentes que j'ai aujourd'hui pour moi en solo dans la chanson. Mais clairement, je peux concilier les deux, parce que étant donné que c'est de la chanson électronique, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. étant donné que c'est de la chanson électronique, je vais beaucoup m'inspirer de grands pontes de la musique électronique, comme des choses très datées. Moi, j'aime bien les trucs un peu datés, un peu hors du temps. C'est évident que tout ce qui est Kraftwerk, Grauzone ou des trucs comme ça, c'est des choses qui m'inspirent énormément. Mm-hmm. Un peu plus récent et dans une scène un peu plus niche, des Fujiya et Miyagi, des Soulwax, des trucs comme ça, c'est des trucs qui me fascinent beaucoup. Et après, pour l'écriture, évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est les monuments de la chanson. C'est les Catherine Ringer, c'est Bachoub. Aujourd'hui, ça va être des artistes de type Bertrand Belin, évidemment Flavien Berger, mais aussi, surtout, des artistes qui sortent un petit peu des créneaux conventionnels. Mmh. Je pense notamment à Arnaud Vinzon ou à Rouge Gorge, qui sont deux artistes qui, moi, me fascinent, qui sont vraiment hors courant et qui écrivent des chansons assez incroyables, quoi.
Et justement, vous parliez du fait que vous faites de la musique électronique, donc. Oui. Pourquoi vous tournez vers ce style de musique en particulier et pas un autre ?
Tout simplement parce que j'avais l'impression de pas trop avoir le choix. C'est-à-dire que la musique électronique me permettait de sortir des mélodies, des textures, des leitmotivs, des choses que... qui finalement reste vraiment de l'ordre de l'empirique et de l'intuitif, mmh. alors que composer à la guitare, par exemple, et tout, c'est quelque chose où je me sens directement très limité, quoi. Après, ça peut être intéressant, justement, dans le sens là, de composer à la basse alors qu'on n'est pas bassiste. Moi, je prône vraiment ce genre de choses. Mais pour moi, c'était l'outil qui me permettait de faire de la musique, donc j'avais pas vraiment le choix, me semble-t-il, quoi. Mmh.
Donc vous êtes formé en autodidacte, est-ce que vous avez appris à jouer d'un instrument au cours de toutes ces années à apprendre la musique?
Alors c'est un complexe actuel aussi. Non, mais en fait je pense peut-être à m'attarder sur du chant ou ce genre de choses, mais j'ai toujours pas commencé à prendre des cours théoriques, quoi. J'ai l'impression qu'on se sent libre quand on n'a pas forcément d'appui théorique. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai pas grand chose à me prouver. Et ça me donne une liberté assez primordiale, il me semble, quoi.
Mmh. Et en termes de chant, vous avez appris aussi en autodidacte, du coup?
Ah ouais, bien sûr. Après, je pense que c'est quelque chose qui peut s'en déduire aussi, parce que moi, personnellement, j'ai jamais été très... je me suis jamais senti très proche des grands chanteurs techniquement parlant, quoi. Mm-hmm. J'ai toujours aimé les chanteuses et les chanteurs qui laissaient voir des faiblesses ou des choses qui laissaient transparaître une sorte de naïveté dans leur interprétation et de simplicité surtout. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup et du coup c'est quelque chose qui m'inspire. Et par ce biais-là, je me suis un petit peu, en fait, je pose des mots un petit peu comme je pose des notes de synthétiseur, finalement. Mm-hmm. C'est des choses qui vont un peu découler de soi et de manière un peu surréaliste, et j'évite de trop me poser de questions aussi, quoi.
Mm-hmm. Alors, on va écouter Sol 21 qui vient de votre album Alinéa, et puis on revient juste après.
Ça marche.
Première cigarette.
Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN.
On est toujours avec Gaël, alias Josy Bazar, un artiste messin. Alors Gaël, comment est-ce que vous avez vraiment commencé à vous lancer dans la musique ?
Disons que j'ai un petit peu forcé le enfin, j'y suis allé un peu par la force des choses, pardon, dans le sens où, comme je racontais tout à l'heure, j'ai décidé de revenir habiter en France pour m'y consacrer. Donc là, à l'époque, c'était avec mon binôme Rod, du coup, avec qui on faisait tout Panade. Et finalement, on a commencé à écrire naïvement tous les deux et on a commencé à savoir comment est-ce qu'on enregistrait un disque, comment est-ce qu'on jouait, ce genre de choses. Et puis, plus le temps passe, plus on apprend ces choses de manière assez empirique, quoi, finalement. C'est-à-dire que on fait des disques qu'on envoie à des gens qui nous font jouer. À l'époque, on habitait sur Paris, donc c'était d'autant plus quelque chose d'assez stimulant, parce que des gens comme nous, il y en avait beaucoup. Et finalement, moi, j'ai commencé à être assez autonome, de plus en plus autonome, dès l'instant où j'ai commencé à habiter à Metz. Donc il y a de ça 4 ans, où j'ai emménagé avec ma femme. Et finalement, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à pouvoir vivre de manière ou d'une autre de ce que je pouvais faire. Parce que finalement, je me dis aussi que j'ai commencé à me lancer, entre guillemets, dans la musique parce que je me disais que je pouvais rien faire d'autre, en fait. Que je pouvais rien faire d'autre.
Oui, vous disiez que vous êtes devenu plus autonome en vous installant à Metz. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je suis devenu plus autonome parce que je considère que une fois arrivé à Metz, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens qui ont été ultra bienveillants autour de moi. Je pense par exemple à mon label Coco Machine, à Romain et à Mélodie, aussi à Patrick Perrin qui est un grand ami et qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours dit ouais, comment je pouvais m'améliorer. Et en plus de ça, j'ai constamment l'impression à Metz de vivre dans une ville de musiciennes et de musiciens, quoi. Et dans le sens aussi où les musiciens et musiciennes ici viennent de beaucoup d'horizons différents. Par exemple, du cercle alternatif, underground, où il y a vraiment une histoire très soutenue, mais aussi sur des groupes qui vont être plus identifiés sur des scènes un peu plus grand public. Et en fait, j'adore cette ville et j'adore les personnes qui y habitent. Et c'est avec tout cet ensemble-là que, à mon sens, c'est ce qui m'a aidé à être porté et donc à me lancer, entre guillemets, et à trouver une autonomie là-dedans, en fait.
Et comment est-ce que vous vous êtes lancé, justement ?
Comment je me suis lancé ? Ouais. En fait, je me suis lancé finalement en commençant en faisant écouter la musique aux gens qui avaient autour de moi, donc surtout mon label. Et donc au début, j'osais pas parce que par rapport à cette entité en solo, moi, je trouvais ça un peu trop naïf. Je trouvais pas ça super légitime, quoi. Et finalement, Romain et Mélodie de mon label leur est timidement fait écouter. Et ils m'ont dit, si, on pense que il y a une légitimité, en tout cas. Et ils m'ont plutôt encouragé, ils m'ont porté. Donc je les ai un peu suivis, ce qui a permis de m'assumer. Je pense qu'on parvient à se lancer en assumant, en fait, tout simplement.
Et comment vous êtes lancé sur vos premières scènes ?
Sur les premières scènes, les premières scènes, elles commencent de manière assez classique, dans des... en rencontrant des patrons de petites scènes comme ça. Donc ça a été fait avec mon duo, ça c'est comme ça que ça a grandi un petit peu à Paris. C'est comme ça que tous les groupes font d'ailleurs. Et finalement, ce qui est bien, c'est que quand on se forme sur ce genre de petites scènes, on commence à entrevoir une proximité avec les gens qui viennent voir ce concert. Et cette proximité, ça devient presque une drogue, en fin de compte. Et c'est quelque chose que, même sur des scènes un peu plus, un peu plus élaboré. La proximité, c'est quelque chose qu'on va vouloir entretenir. Et finalement, on essaye une petite scène. Après, la première fois qu'on essaye, je sais pas, par exemple, la grande scène de l'autre canal, ou de la Rodia, par exemple, on commence à être un peu comme un ado qui réalise un rêve. Mmh. Au début, on n'y croit pas trop. Et puis finalement, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est deux espaces entièrement différents, quoi. Ces petites scènes-là, dans la réception qu'on donne des chansons et dans l'énergie qu'on transmet, c'est vraiment deux choses différentes. Et en tout cas, moi, ouais, pour répondre plus brièvement, je viens des petites scènes et des petites caves, en fait, aussi, des caves alternatives, des milieux associatifs et indépendants. C'est un truc qui me lâchera jamais trop, je pense.
Mmh. Et donc ensuite, vous avez fait une assez grosse tournée en Europe de l'Est, en République tchèque, en Slovaquie. Comment ça s'est fait ?
Ça s'est fait comme ça se fait beaucoup dans le milieu, on va dire. C'est un petit peu, encore une fois, par la force des choses. Hein. C'est un truc auquel j'ai pas cru, d'ailleurs. Mmh. On m'avait appelé pour jouer au Rotonde, qui est une salle au Luxembourg, dont j'aime beaucoup la programmation, d'ailleurs. Et on m'avait appelé pour amortir la première partie d'une artiste incroyable qui s'appelle Princess Chelsea, qui est une artiste néo-zélandaise et qui venait défendre son disque de l'époque. Et moi, j'en reviens pas, je joue avant elle, donc je trouvais ça assez fou, quoi. Je m'y attendais vraiment pas. Puis en plus, c'est un des meilleurs concerts que j'ai jamais vu de ma vie, mm-hmm. je pense. Et en fait, juste avant que je fasse cette date, je reçois un message à l'époque sur Messenger d'une femme qui s'avance comme la bookeuse qui s'occupe de la production de la tournée de Princess Chelsea en Europe de l'Est, donc principalement en République tchèque et en Slovaquie. Et elle me dit, je vois que tu joues au Luxembourg, est-ce que ça te dit de continuer la tournée ? Alors au début, je failli pas répondre parce que j'ai cru que c'était une sorte d'arnaque téléphonique comme on en fait. Mm-hmm. Et en fait, ça m'a un petit peu... j'ai trouvé ça un peu déroutant, donc je lui ai demandé plus d'informations. Et donc elle a commencé à me dire, par contre, faut que tu viennes par tes propres moyens. Donc je suis allé avec une amie en voiture. Et en fait, du coup, ça a fait quoi ? 3 ou 4 dates, peut-être 5, je crois, dans des salles vachement identifiées là-bas, quoi. Mm-hmm. Et c'était surtout une énorme expérience que de chanter des chansons francophones devant un public non francophone, pour le coup.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, justement, cette expérience ?
Ça m'a apporté une expérience liée au fait de jouer très loin de chez soi. Enfin, très loin, on n'est qu'à 7 heures, plutôt mm-hmm. à peu près loin de chez soi. Ça m'a aussi permis de voir que on pouvait chanter sa langue natale devant des gens qui ne la comprenaient pas, et que les gens pouvaient y être réceptifs. Donc mm-hmm. ça m'a permis de construire une confiance supplémentaire, on va dire. Et... être en lien direct avec une artiste comme Princess Chelsea, qui était accompagnée par son conjoint aussi, Jonathan Bray, qui a beaucoup fait parler de lui aussi. De rencontrer ces personnes-là qui ont une telle influence sur la scène musique indé, et de pouvoir leur parler, de partir, de faire un jour de repos avec eux, enfin, ça permet de aussi découvrir d'autres sphères artistiques et ça m'a permis, en fait, de retrouver un peu de bienveillance sur d'autres échelles musicales hors de la France, quoi, finalement.
Mmh. Alors, pour poursuivre, je vous propose d'écouter donc La Ligne, qui vient de votre album Alinéa, et on l'écoute maintenant sur RCN.
Pour tracer une ligne... Il faudra tout d'abord accumuler un certain nombre de points, glanés de part et d'autre. Il vous sera demandé de les nommer méthodiquement, un par un, point par point, d'un point A à un point B, plus si affinité. Comment ? Pardon. aucune hésitation ne sera de rigueur. Une découpe relative, radicale. Toute cette brigade de points s'enchaîne de manière ordonnée, méticuleuse. Un travail d'orfèvre. D'un point A à un point B. Plus loin, si affinité. Il s'agira de définir sa direction, du grand nord au grand est, du grand ouest au grand sud, loin du centre. Toujours d'un point A à un même point B. Cependant, vous constaterez qu'une ligne n'est jamais droite.
Masque tombe sur RCN.
On est toujours en compagnie de Gaël, alias Josy Bazar, un artiste messin. Alors Gaël, vous avez sorti un album récemment. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ?
Alors ce disque-là que je viens de sortir, en fait, est un peu une compilation entre deux, trois premières chansons que j'avais commencé à écrire une fois que je me suis installé à Metz, mais la majeure partie du disque a été écrit en résidence dans un lieu qui aujourd'hui compte beaucoup pour moi, qui a pas mal changé ma vie, qui s'appelle le Château de Montelon, qui est en Bourgogne, qui est un lieu tenu par plusieurs artistes, circassiens, personnes du théâtre. Et en fait, j'ai eu l'occasion d'y séjourner pendant 15 jours, et une fois là-bas, donc, tout a un petit peu coulé de source. J'ai commencé à écrire plusieurs chansons de manière assez, encore une fois, empirique et intuitive. Et j'ai finalement, une fois que tout a été écrit, je me suis dit que, en tout cas, je trouvais un sens un petit peu comme un petit puzzle. Je me suis dit, tiens, il y a un truc qui sort de ça. Il y a toujours cette fascination pour les formes de lignes, ce genre de choses. Espèce d'abstraction un peu singulière, un peu naïve aussi, un peu paumée. Et en rentrant, donc j'ai eu l'occasion de jouer le disque directement en faisant la surprise au Trinitaire à Metz, sans en parler à mes proches. Et le label, étant donné qu'ils sont venus au concert, m'ont dit, suite à ça, m'ont fortement conseillé de ne pas sortir de 5 titres, mais de plutôt sortir toutes mes chansons que j'avais écrites en Bourgogne. Et finalement, j'ai entendu leurs conseils. Et du coup, on s'est mis en projet de construire ce disque, du coup, qui, comme vous l'avez dit, s'appelle Alinéa.
Et de quoi il parle, justement, cet album ?
Alors, cet album va parler... je pense qu'il va évoquer, plutôt que de parler, il va suggérer une sorte de dynamique qu'on peut rapprocher d'une dynamique liée à la ligne. Une ligne à la fois une ligne géométrique, une ligne de vie, une ligne de train, mais aussi une ligne d'horizon qui va se rapprocher de cette ligne d'horizon qu'on perçoit entre les Vosges plates du coin d'Épinal d'où je viens, mais aussi des coins de Meurthe-et-Moselle, de Moselle. C'est une suggestion en fait. Je vois un petit peu cet album comme un tutoriel un peu surréaliste et poétique, suggestif, qui nous fait entrevoir cet imaginaire lié à la ligne finalement, à la rêverie en tout cas.
Et dans cet album, est-ce qu'il y a une chanson qui vous tient à cœur en particulier ?
Ouais, particulièrement. Si je devais en nommer une, j'aime beaucoup un titre qui s'appelle Voyageur sédentaire. C'est surtout parce que c'est avec la ligne, c'est un des titres que je préfère interpréter sur scène. Mais aussi parce que c'est le principe de voyageur sédentaire, c'est finalement une chanson qui arrive à ramifier différentes zones géographiques dans lesquelles j'ai pu vivre. C'est notamment une chanson qui va parler du fait d'être un individu perdu dans un espace qu'on ne maîtrise pas. Comme quand on est expatrié et qu'on habite en Chine, par exemple, mais aussi comme quand on arrive dans une petite ville en France et qu'on connaît encore personne. Et il y a des liens que je tisse avec tout ça et je la trouve plutôt générique par rapport à ça. Ouais.
D'accord. Est-ce que vous avez du coup des dates prévues prochainement, des concerts qui vont arriver ?
Oui. Alors, je suis beaucoup dans l'attente de confirmation, donc tant que les annonces sont pas officielles, celle-là je suis pas en mesure de les communiquer, mais il y aura à Arlon par exemple pour le festival Les Arts à Lunaire le 5 mai dans notre région le 25 mai à l'autre canal pour le festival Bon Moment. Et voilà, j'attends encore d'autres confirmations pour l'été à venir, quoi.
Donc on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre un peu tout ça, voir vos dates, voir où on peut vous trouver.
Oui, alors surtout sur Instagram, parce que mon compte Facebook s'est en fait pirater. Je n'ai plus accès ni à ma page, ni à rien du tout. Du coup, c'est toujours mieux alors soit d'aller sur la page du label pour Facebook, et puis sur Instagram, c'est ce que je tiens de manière la plus sérieuse, quoi.
D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez dire comme dernier mot pour ceux qui nous écoutent, pour terminer ?
Comme dernier mot, j'inviterai tout le monde, toutes les personnes à continuer de rêver un petit peu, surtout dans l'actualité qui s'annonce, et je revendiquerai un droit au rêve constant. Et j'espère que les gens continuent à rêver et à s'octroyer autant d'oisiveté que possible, parce que j'ai l'impression que l'oisiveté aujourd'hui devient un combat. J'ai juste envie de leur dire de se ménager et de prendre soin d'eux.
Merci beaucoup Gaël. C'était un plaisir de vous recevoir dans l'émission.
Apparemment pour moi, c'est très gentil de m'avoir accordé ce temps.
Avec plaisir. Et puis on va se quitter en écoutant justement Voyageurs sédentaires qui vient de votre album.
Super, à bientôt, merci beaucoup.
À bientôt, et on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent.
Voyageurs sédentaires. Accrochés par miracle. À ton parachute amer. Tu t'es perdu dans le ciel, mais rien n'est perdu dans le couloir. attiré par les lumières, des formes signalétiques, cataphiles. Tu t'es perdu dans le ciel, mais rien n'est perdu dans le couloir. Voyageur sédentaire. On t'a retrouvé, terre opiacée.